France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Moins de 3 jours le plus souvent pour décrocher un rendez-vous chez le généraliste, jusqu'à 42 jours pour voir un cardiologue, résultat d'une étude inédite sur les délais d'attente médicaux en France. On va vous la dévoiler dans un instant. On vous donnera aussi le détail des départements où la situation est la plus dégradée. À suivre encore, la mort de 5 migrants la nuit dernière dans une tentative de traversée de la Manche. Nous serons sur place. Nous serons également en Allemagne. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour.
Un agent chinois présumé vient d'y être arrêté.
Officiellement, il était l'assistant depuis 2019 d'un eurodéputé, mais c'était une couverture pour espionner les coulisses du Parlement européen et transmettre les informations à Pékin.
Et vous nous raconterez cette histoire en direct de Berlin. L'édition 2024 du Festival des Vieilles Charrues pourrait être la dernière. On vous dira pourquoi. Nous verrons que l'un des monuments les plus célèbres de notre littoral, le Fort Boyard, est en péril. Le département de Charente-Maritime a besoin de 44 millions d'euros pour les travaux. Et puis les rêves d'Europe de l'équipe surprise de la saison de foot, c'est le Stade Brestois. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
L'Europe, oui, mais sans doute pas dans son stade.
Oui, parce que l'UEFA veut limiter la capacité du stade Francis Leblé. 5000 places maximum parce que 3 des 4 tribunes ne sont pas aux normes. Brest va sans doute devoir trouver un plan B.
A tout de suite Jérôme. À 13h30, nous parlons de ces Français qui maîtrisent mal la lecture, l'écriture et le calcul. 1 sur 10 selon la dernière étude de l'INSEE. Les seniors sont les plus concernés. Venez témoigner, nous racontez si c'est votre cas ou si vous connaissez quelqu'un qui est concerné. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. La Poste lance ses bureaux itinérants et c'est la mode des camions dans nos campagnes, nous dira Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, l'actrice Béatrice Dalle avec Frédéric Pommier et un titre de Nirvana puisqu'elle présente un spectacle hommage au groupe. C'est cette semaine au printemps de Bourges. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est une photo très précise de la France et de ses médecins et qui va en partie à l'encontre de ce que l'on pensait jusqu'ici. La Fondation Jean Jaurès publie une étude qui nous renseigne sur les délais avant d'obtenir un rendez-vous médical. Elle s'est appuyée pour cela sur les données de la plateforme en ligne Doctolib. Elle a classé les résultats par spécialité, par département. Ça nous renseigne notamment sur la pénurie de médecins dans notre pays. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Jérôme.
C'est vous qui nous révélez cette étude aujourd'hui. Victor, on peut d'abord dire que la situation est moins grave que ce qu'on pensait.
Oui, en compilant les statistiques de 75 000 professionnels de santé utilisateurs de Doctolib et près de 200 millions de consultations en France en 2023, le constat est moins alarmiste que prévu et pour cause, la moitié des rendez-vous de généralistes sont obtenus en moins de 3 jours. Viennent ensuite les pédiatres, 50% des rendez-vous sont pris en moins de 7 jours. Pour les dentistes et les sages-femmes, il faut compter 11 jours. Signalons quand même qu'il y a un biais dans cette étude. Ce ne sont que les patients qui arrivent à prendre un rendez-vous sur la plateforme Doctolib qui sont comptabilisés pour cette étude.
Voilà, les patients non enregistrés dans Doctolib ne sont pas pris en compte dans l'étude. C'est
exactement
bien ça, Victor.
Exactement.
Il y a tout de même, pour certaines spécialités, des délais très importants.
Oui, et là, les délais d'attente médians pour certaines spécialités font froid dans le dos. Si vous cherchez un rendez-vous avec un ophtalmo, comptez en moyenne 25 jours d'attente. Pour un dermatologue, il vous faudra encore plus de patience, 36 jours. Et pour un rendez-vous avec un cardiologue, comptez 42 jours d'attente.
Et puis, élément fondamental, la situation varie d'un département à l'autre et on a une quinzaine de départements où la situation est très tendue.
Oui, d'abord arrêtons-nous un instant sur les disparités entre départements. Deux exemples pour obtenir un rendez-vous avec un pédiatre dans les Côtes d'Armor par exemple. Il faudra compter plus d'un mois d'attente contre 1 à 7 jours à Paris. Donc là, il vaut mieux regarder les résultats par département que la médiane. Même chose pour les dentistes, compter plus d'un mois pour un rendez-vous dans Lyon, la Meuse ou la Sarthe contre 1 à 7 jours en Seine-Saint-Denis. Ensuite, la situation est très tendue dans 14 départements, vous l'avez dit Jérôme. Dans ces territoires, les délais d'attente sont deux fois supérieur aux valeurs médianes que nous avons évoquées juste avant. Enfin, un dernier point important à souligner pour les soignants qui font de la téléconsultation. Celle-ci permet d'accélérer sensiblement le délai de prise de rendez-vous. C'est donc une des solutions pour améliorer l'accès aux soins, mais pas l'unique solution.
Merci Victor Dolande pour ces informations que vous retrouvez détaillées et c'est très bien fait. C'est sur le site de France Inter. Là aussi, il faut regarder la carte de France pour comprendre. La carte des températures qui nous renseigne sur les craintes aujourd'hui des agriculteurs et des viticulteurs, car il a encore gelé la nuit dernière dans notre pays. Alors les dégâts n'atteignent pas le niveau de 2021, mais tout de même déjà des pertes constatées par plusieurs vignerons dans dans le Jura, le Var, le Vaucluse, l'Hérault et dans le vignoble de Provence, dans les Bouches-du-Rhône, à Trets. Là, le gel a frappé dès la semaine dernière, moins 3 degrés. Problème, les vignes avaient 10 à 12 jours d'avance en raison des températures élevées du début de printemps. Émilie Briffaut a constaté les dégâts avec Fabien Doudon, c'est l'un des viticulteurs de la commune.
Et c'est avec un mélange de tristesse et de résignation que Fabien Doudon m'emmène constater les dégâts. Sur ces 40 hectares de vignes, seuls 20% ont pu être sauvés. Tout le reste a gelé.
Donc là, c'est vos cépages ?
Alors c'est le grenache qui a carrément 100% gelé. Vous voyez que c'est, on le touche, il n'y a plus rien. C'est sec. Sur 6 hectares d'un seul tenant qui est autour de mon exploitation, c'est 100% de la production que je récolterai pas. C'est foutu, ouais. C'est lunaire, quoi. Quand on a dit lunaire, il n'y a même plus une pousse verte qui apparaît sur la vigne.
Et malheureusement, les prévisions météo ne sont pas bonnes. De nouvelles nuits de gel sont annoncées.
On va prier pour pas qu'il y ait d'autres dégâts. Alors, il y a des techniques qui sont de plus en plus innovantes, mais qui coûtent très, très, très cher, comme les fils électriques. Par exemple, en Bourgogne, dans les Bordeaux, il y a des hélicoptères, des grands domaines qui mettent des hélicoptères. Mais vous gagnez 1 à 1,5 degré, c'est pas mirobolant. La solution, malheureusement, il n'y en a pas, c'est d'être assuré, quoi.
Fabien Doudon attend d'ailleurs les experts pour évaluer l'ampleur des dégâts, mais quoi qu'il en soit, il ne sera pas indemnisé avant la fin de l'année. En attendant, il doit payer ses 2 salariés et penser déjà à l'année suivante.
Reportage France Bleu Provence. Dans le Pas-de-Calais, la météo a sans doute été jugée favorable la nuit dernière par les migrants qui ont tenté la traversée vers le Royaume-Uni. Mais l'une de ces tentatives a tourné au drame. Au large de Vimereux, 5 migrants sont morts noyés, dont une fillette. Les dernières informations de Thomas Schoener.
C'est vers 5h du matin qu'est partie cette embarcation avec à son bord 112 personnes du jamais vu. Selon le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Bihan, qui s'est exprimé sur la digue de Vimereux, des exilés entassés alors que la température extérieure était autour de 0 degré, moins de 10 degrés dans l'eau. C'est à une centaine de mètres de la côte que le moteur de cette embarcation a connu une avarie. Plusieurs personnes sont tombées à l'eau. Arrivées sur place, les secouristes ont immédiatement pris en charge 6 personnes et les ont ramenées à terre malgré l'action des pompiers. 5 d'entre elles sont donc mortes, 3 hommes, une femme et une très jeune fille qui avait entre 4 et 7 ans, selon le préfet. 5 morts auxquels il faut ajouter des blessés, puisqu'une quarantaine d'exilés présents sur l'embarcation ont été ramenés à Boulogne-sur-Mer, où un poste médical avancé avait été installé. Malgré ce drame, 57 migrants n'ont pas voulu être secourus et ont poursuivi leur traversée en direction de l'Angleterre.
Précision signée France Bleu Nord. Pour dissuader ces traversées de la Manche, les députés britanniques ont adopté définitivement la nuit dernière un projet de loi controversé sur l'immigration. Il s'agit d'expulser des migrants arrivés illégalement dans le pays, de les expulser vers le Rwanda, au cœur de l'Afrique. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour à tous.
Le Premier ministre britannique Rishi Sunak dit que les premiers avions charter sont prêts à décoller. Est-ce qu'on sait ce que vont devenir ces migrants une fois arrivés au Rwanda ?
Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne reverront pas le sol britannique. C'est en tout cas ce que dit la loi adoptée la nuit dernière. L'examen des demandes d'asile est totalement sous-traité au gouvernement rwandais qui accueillera les migrants ou pas. D'où la dénonciation unanime des défenseurs des droits de l'homme, les ONG d'abord, comme Amnesty International, dont la branche française fustige une infamie sans nom, et la branche britannique une honte nationale qui laissera une tache sur la réputation morale de ce pays. Dans un communiqué commun, Amnesty, Freedom for Torture et Liberty pointent une menace significative pour l'état de droit. Raison pour laquelle l'ONU demande à Londres de reconsidérer son plan, car il y a bien entrave et atteinte à l'indépendance de la justice, selon le commissaire du Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme.
Alors le Conseil de l'Europe, Louise, c'est vraiment l'institution clé dans ce dossier.
Oui, il réunit 46 États membres, dont le Royaume-Uni, et il est dépositaire de la Convention européenne des droits de l'homme, que la Cour européenne des droits de l'homme est chargée de faire respecter. Or, la loi d'expulsion britannique est en contradiction avec l'article 3 de cette convention, celui sur la torture et les traitements inhumains. Les migrants envoyés au Rwanda risquant l'expulsion vers leur pays d'origine, où ils sont susceptibles d'être persécutés. Alors, ce que dit la loi adoptée la nuit dernière, c'est que le Rwanda est un pays tiers sûr qui ne renverra pas les migrants vers leur pays d'origine. Affirmation contestable au vu des pratiques autoritaires du président rwandais Paul Kagame. Par ailleurs, la loi d'expulsion va jusqu'à permettre au gouvernement britannique d'outrepasser les injonctions de la Cour européenne des droits de l'homme. Les autorités britanniques s'autorisent à lui désobéir en somme, et c'est une première en Europe, première très observée sur le continent.
Merci. Merci Louise Baudet pour ces explications. En Allemagne, en pleine campagne pour les élections européennes, c'est une affaire d'espionnage impliquant la Chine qui fait donc la une ce matin. Sébastien Baer, on vous retrouve en direct de Berlin. Sébastien, la justice allemande dit avoir arrêté un agent chinois qui est aussi l'assistant d'un eurodéputé d'extrême droite.
C'est exactement ça, Jérôme. Il s'appelle Jian Guo. C'est un homme de 43 ans, d'origine chinoise, dont le nom apparaît dans la rubrique « Assistant accrédité » sur le site internet du Parlement européen. Ce collaborateur a rejoint l'équipe de Maximilian Kra après son élection en 2019 et il l'a accompagné quelques semaines plus tard lors d'un voyage en Chine. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il aurait commencé à travailler comme agent de renseignement. Selon les éléments transmis par le parquet, Jian Guo avait une double mission, espionner les négociations du Parlement européen, noter ce qu'il se passait dans le secret des coulisses. L'espion est aussi soupçonné d'avoir infiltré des groupes d'opposants chinois établis en Allemagne et d'avoir rédigé des fiches sur le profil des dissidents. À chaque fois, l'homme transmettait ces informations ensuite aux services secrets chinois. Nancy Faeser, la ministre de l'Intérieur, qui a mis en garde à plusieurs reprises déjà contre l'intensification de l'espionnage par la Chine, qualifie cette affaire d'extrêmement grave. De son côté, Pékin conteste les faits et dénonce une calomnie destinée, je cite, à détruire la atmosphère de coopération entre la Chine et l'Europe.
Merci Sébastien Baer en direct d'Allemagne. On reparlera de la Chine dans quelques minutes avec un autre dossier brûlant dans les relations avec les Occidentaux, c'est le dossier du réseau social TikTok. Mais restons pour l'instant sur les européennes. En France, cette fois, avec ces polémiques à répétition autour des conférences politiques qui sont données à l'université. Celle de Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis par exemple, prévue à Lille hier soir, a été annulée par l'université. Mais elle a finalement eu lieu à Sciences Po Paris. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
On a besoin de vos explications à ce stade. Un homme, une femme politique peut tenir une réunion dans l'enceinte d'une université, c'est légal?
Oui, si c'est à l'initiative d'une association d'étudiants et si la présidence de l'université donne son accord. Ce ne sont pas les établissements de l'enseignement supérieur qui organisent eux-mêmes ces événements politiques. Ils se doivent de garder une certaine neutralité. En revanche, ils mettent à disposition des moyens, des salles pour toutes les associations d'étudiants qu'ils reconnaissent officiellement. Il y a une procédure à respecter propre à chaque université. Les associations qui programment une conférence doivent se conformer à un cadre, un délai pour effectuer leurs demandes, notamment pour des questions de sécurité, surtout pour des personnalités politiques, et encore plus en ce moment avec le plan Vigipirate. Oui. Une université ou une grande école peut refuser la tenue d'une conférence si par exemple le délai n'a pas été respecté et qu'elle ne peut pas garantir la sécurité des participants ou si elle juge le sujet trop sensible. À l'inverse, l'autorisation ne signifie pas qu'elle cautionne politiquement un mouvement, mais sans prendre parti, et c'est tout un équilibre à trouver, les établissements du supérieur sont aussi des lieux de débat, d'ouverture, dans le cadre de leur mission, former des étudiants et des esprits éclairés.
Merci Sonia Princé. Très peu de bus depuis ce matin dans l'agglomération de Grenoble. Les conducteurs exercent leur droit de retrait après un violent incident hier soir. Un bus touché par 7 coups de feu sur la commune d'Échirolles. Le véhicule ne transportait pas de voyageurs. Le conducteur n'a pas été blessé. À Toulouse, c'est un professeur de collège qui a été agressé hier en plein cours par l'un de ses élèves âgé de 14 ans. L'enseignant a déposé plainte. Le collégien est en garde à vue. Il avait déjà été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises. Et ses parents convoqués.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Ce sont deux incontournables de notre patrimoine historique et culturel, deux monuments à leur manière qui aujourd'hui sont en péril. Nous parlerons dans un instant avec notre invité du Fort Boyard au large de la Charente-Maritime qui se trouve en très mauvais état. Mais d'abord un festival de musique le plus fréquenté de France, celui des Vieilles Charrues à Carré dans le Finistère. 346 000 entrées l'an dernier, succès populaire depuis plus de 30 ans, mais des querelles incessantes depuis plusieurs mois entre ses organisateurs et le maire de la commune. Au point qu'aujourd'hui, le festival l'accuse d'avoir pris des décisions qui, je cite, condamnent l'avenir de l'événement. De quelle décision s'agit-il, Baptiste Schweitzer ?
Première décision, celle de préempter un bâtiment, celui des anciennes chambres consulaires situées à l'entrée principale du festival et que les organisateurs souhaitaient acquérir. Un compromis de vente avait été signé en décembre dernier. Le bâtiment devait être occupé dès l'été 2024. Selon les Vieilles Charrues, la municipalité a fait savoir qu'elle préemptait ce bâtiment au tout dernier moment. Autre grief, cette facture de 367 000 euros adressée mi-avril par la commune aux organisateurs pour notamment l'utilisation de la prairie de Quérampuis. Cela n'avait jamais été évoqué, selon le festival qui dénonce une taxe excessive et injuste compte tenu des contreparties déjà apportées par le festival à la ville. Enfin, en mars dernier, Power Communauté a expliqué avoir pris la décision de ne plus mettre à disposition la moitié des terrains occupés par les campings dès 2026. À terme, cela sera ingérable, expliquent les organisateurs. Ils dénoncent enfin des revirements incessants et le sentiment de vivre un acharnement. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune marge de manœuvre ni solution de repli autour du festival.
Explication France Bleu Breizh-Izel, auquel le maire de Carhaix, Christian Troadec, n'a pas répondu. Et donc l'autre monument dont je vous parlais, de pierre celui-là, c'est le Fort Boyard, célèbre notamment pour le jeu télé auquel il sert de cadre depuis plus de 30 ans. Inauguré en 1866, il est aujourd'hui très dégradé. Il faut pour le sauver mobiliser près de 44 millions d'euros. Bonjour Sylvie Marcilly.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Inter. Vous êtes la présidente du département de Charente-Maritime, qui est propriétaire du fort. Vous venez d'annoncer le calendrier d'un chantier colossal, 3 ans, 2025-2028. C'est vraiment la survie de l'ouvrage qui est en jeu aujourd'hui.
Oui, en fait, il est menacé dans sa structure. Il est assailli par la mer, par la houle. Et donc, l'objectif du département de la Charente-Maritime que je préside, c'est de reconstituer les protections d'origine, en fait, du fort, telles qu'elles ont été imaginées au 19e siècle.
Vous diriez que l'érosion s'est accélérée ces dernières années, que la dégradation du fort s'est accélérée ces dernières années ?
Oui, étant donné, en fait, que les protections ont complètement disparu, eh bien, la houle, en fait, l'hydrodynamique vient frapper inlassablement de plein fouet l'édifice. Et aujourd'hui, c'est sa structure même qui est menacée. Hein. On voit des fissures qui lézardent les murs, des clés de voûte sont aussi en train de bouger, donc il y a urgence à agir.
Est-ce que vous faites un lien avec l'érosion qu'on constate sur les côtes et la montée des océans, ou bien c'est trop tôt à ce stade ?
Non, en fait, il n'y a pas de corrélation entre ces deux événements. Encore une fois, c'est vraiment la mer qui vient, c'est un milieu hostile, et qui vient inlassablement taper le monument. Donc voilà, c'est un joyau de la Charente-Maritime, c'est un peu notre emblème, c'est notre tour Eiffel à nous, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, il faut sauver ce magnifique patrimoine de la Charente-Maritime.
Avec des ouvrages de protection qui vont donc être réalisés de part et d'autre du fort, c'est ça, pour casser les vagues en quelque sorte ?
Oui, imaginez en fait cet ovale, cette silhouette posée sur la mer, et bien la réalisation des travaux consistera en fait à faire un éperon à l'avant du vaisseau pour casser la vague, et à l'arrière, un havre d'accostage sera réalisé, ce qui permettra de petites embarcations d'atteindre le fort, et pourquoi pas...
On pourra donc visiter.
Et oui, en fait, ce sera...
C'est l'objectif.
C'est magnifique et je pense que, effectivement, tout le monde rêve d'aller sur le Fort Boyard.
D'ici là, il faut mobiliser de l'argent, près de 44 millions d'euros. Vous les avez au département de Charente-Maritime ? Ces 44 millions d'euros, c'est une somme considérable ?
C'est une somme considérable et nous allons faire appel aux partenaires institutionnels, bien évidemment, l'État, mais aussi l'Europe, la région, et puis un appel aux dons. Un appel aux dons pour sauver notre fort.
Sans les dons, uniquement avec les contributions de l'État, de l'Union européenne, de la région, vous n'arriverez pas à sauver le
fort. Si, bien sûr, mais vous savez, on y arrivera. Mais le Fort Boyard, sa reconstruction, sa préservation, c'est une affaire de cœur et c'est l'affaire de tous.
Est-ce que les tournages vont se poursuivre ? Toujours un succès l'été, la diffusion du jeu Fort Boyard, en France et à l'étranger d'ailleurs. Est-ce que dans ces conditions, les tournages peuvent se poursuivre ?
Oui, en fait, il n'y aura aucun obstacle au tournage de l'émission qui contribue aussi à la notoriété de l'édifice, bien évidemment.
Et aux rentrées financières, je crois que le loyer est autour de 100 000 euros, c'est ça ?
100 000 euros, oui.
100 000 euros pour permettre aussi l'entretien de ce fort. Merci à vous Sylvie Marcilly, présidente du conseil départemental de Charente-Maritime, d'avoir accepté l'invitation de ce 13-14. J'ajoute que nous serons dans deux jours avec le 13-14 en direct du département du Var. Et nous parlerons de l'érosion côtière, cette fois dans l'un des départements français qui en souffre le plus. Je vous garde quelques minutes, Sylvie Marcilly, parce que le sujet qui vient va vous intéresser. Il concerne la qualité des eaux pour les ostréiculteurs. Ils sont très nombreux dans votre département. Cet hiver, on le sait, a été catastrophique pour beaucoup de producteurs d'huîtres dans le bassin d'Arcachon, mais aussi en Loire-Atlantique, dans le pays de Ré. La faute aux fortes pluies et au réseau d'assainissement vieillissant. Certaines stations d'épuration ont débordé, alors l'agglomération de Pornic a fait voter un plan d'urgence, 6 millions d'euros, qui vont servir à louer pendant 3 ans une station d'épuration mobile. L'entreprise SOR vient de l'inaugurer, c'est une première en France. Reportage Hélène Roussel.
Des arbres, des petites collines, au loin, la route bleue et le lycée de Pornic, paysage bucolique, c'est sans compter le bruit et l'odeur, bien sûr.
L'eau, elle arrive là, un peu comme la bouteille de limonade. On va créer des fines bulles d'air.
Alexandre Leuster, directeur régional de la SOR.
Ce qui se passe, c'est que les boues ont tendance à s'accrocher avec les bulles d'air qui vont remonter. Elles sont raclées en surface par les râteaux qui tournent là sur la chaîne. Tout ce que vous voyez qui tombe là, c'est la pollution que l'on a enlevée de l'eau qui arrive des effluents.
Séparée des excréments, l'eau part dans des pompes, direction des cuves en inox pour le filtrage. Puis toujours dans un conteneur, l'eau est passée aux UV pour tuer bactéries et virus avant d'être rejetée dans l'océan.
La construction de stations d'épuration, ça prend plusieurs années. Là, entre le moment où elle a été livrée et le moment où on a appuyé sur le bouton, ça a dû prendre que 15 jours. Mais avec des volumes qui sont assez considérables, 3000 m3 par jour.
4 millions d'euros, l'allocation pour 3 ans, le prix à payer pour que les ostréiculteurs aient une chance de passer l'hiver prochain plus serein.
Les réseaux qui sont anciens ne sont pas étanches.
Claude Caudal, vice-président de Pornic Agglo.
On a identifié 100 km de réseaux à restructurer. Donc, pendant qu'on fait ce travail sur les réseaux, on augmente parallèlement la capacité de traitement et de stockage de nos stations.
On nous a souvent montrer du doigt, confie encore l'élu, et le risque zéro n'existe pas, mais personne ne pourra dire qu'on ne fait rien.
Reportage France Bleu Loire-Océan. Une série d'annonces du Premier ministre ce matin sur la simplification des services publics pour aider les agents. Gabriel Attal indique que l'intelligence artificielle sera davantage déployée. Elle servira à pré-remplir les dossiers de bourse ou de primes d'activité par exemple. Et puis, 300 nouvelles maisons France Service vont ouvrir dans les villes moyennes. C'est là que sont rassemblés dans ces maisons les principaux services publics de l'État. Et pour tous les salariés, un accord très important qui se profile. Il concerne le compte épargne-temps universel. Une organisation patronale et des syndicats sont prêts à signer ensemble un texte qui prévoit la mise en place d'un CETU. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2022. Bonjour Maxime Deps.
Bonjour.
D'abord, est-ce qu'on sait combien de salariés français bénéficient aujourd'hui d'un compte épargne-temps ?
Oui, aujourd'hui, on estime à 10 voire 20% seulement la part des salariés du privé qui bénéficient d'un CET, compte épargne-temps davantage léger dans la fonction publique avec la moitié des agents qui en seraient pourvus. Ces CET en gros qui profitent surtout aujourd'hui pour faire simple aux salariés des grandes entreprises.
Et donc avec cet accord, davantage de salariés pourraient épargner des jours.
C'est l'idée en tout cas, hein, généraliser à tous les salariés le fait d'épargner des jours de congé donc tout au long de sa carrière dans la limite d'une semaine par an. C'est ce que prévoit le projet d'accord à ce stade. On parle ici de RTT que vous n'avez pas pu poser, de jours que vous pourriez prendre plus tard ou même vous faire payer, même si sur la monétisation, un flou demeure. C'est l'une des questions en suspens alors que se poursuivent en ce moment les discussions sur ce CET universel hein, qui, pour être valide, entrer en vigueur, devra de toute façon bénéficier du tampon de l'exécutif. L'État aura en effet le dernier mot à la fin, lui qui accueille avec intérêt les discussions en cours mais qui ne reprendra pas in extenso les propositions des syndicats et de l'UDP, la seule organisation patronale favorable à ce dispositif. Si accord il y a en tout cas, et en fonction de ce que retiendra l'exécutif, donc ce compte épargne-temps pourrait être transposé dans une loi travail prévue à l'automne.
Merci Maxime Deps. Confirmation de très fortes perturbations dans le trafic aérien. Jeudi, le mouvement de grève des contrôleurs aériens sera très suivi, dit à l'instant la principale organisation qui regroupe les entreprises du secteur aérien, qui parle de 75% de vols supprimés à Orly et 65% à Roissy-Charles de Gaulle pour ce qui est des seuls aéroports parisiens. Le feu ne se calme pas des deux côtés de l'Atlantique contre le réseau social TikTok. Aux États-Unis, c'est la Chambre des représentants qui a lancé un ultimatum ce week-end en adoptant une proposition de loi pour interdire TikTok si l'entreprise ne coupe pas ses liens supposés avec sa maison mère qui, elle, est installée en Chine. Et puis en Europe, la Commission européenne a annoncé hier avoir ouvert une enquête contre la nouvelle application TikTok Lite qui récompense le temps passé par les utilisateurs devant les écrans. Alors on attendait de connaître la réplique du réseau social. Manifestement, il est bien décidé à se défendre pied à pied. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour Jérôme.
Selon vos informations, l'axe de défense de TikTok sera le suivant. Nos données ne sont pas stockées en Chine.
Oui, alors si le texte est adopté par le Sénat américain, ce qui ne fait quasiment aucun doute, il ne restera plus qu'une étape, la promulgation par Joe Biden. Il a déjà indiqué qu'il le validerait. Donc face à ça, TikTok ne compte pas rester immobile, bien au contraire, l'entreprise mûrit sa réplique et se prépare, nous confirme-t-on, à une longue et très dense bataille juridique, et ce en utilisant toutes les voies de recours possibles. Elles sont extrêmement nombreuses outre-Atlantique. Bataille juridique, mais aussi donc bataille de com, vous l'avez dit Jérôme, aucune donnée américaine ne sont stockées en Chine, rappelle l'entreprise qui affirme avoir fait des investissements colossaux aux États-Unis pour le garantir. Un mot de ce qui nous concerne plus particulièrement, nous, en Europe, oui. Les données des utilisateurs devraient être hébergées dans l'Union d'ici à la fin de l'année. Un data center installé à Dublin est déjà en activité, un autre est en train d'être terminé en Irlande également, et un dernier en Norvège.
Information signée Xavier Demagny. C'est le meilleur jeu de mots, me semble-t-il, aujourd'hui à la une de vos journaux, celui du journal L'Équipe qui titre ce matin « L'UEFA n'aime pas le blé », référence au stade Francis Leblé, celui du club de football de Brest, le stade brestois surprenant troisième de la Ligue 1 de football et qui disputera, c'est quasiment sûr maintenant, la Coupe d'Europe la saison prochaine, mais ce ne sera très certainement pas dans son stade. Jérôme Val, vous êtes avec nous. Les conditions ne sont pas réunies, dit l'UEFA, pas plus de 5000 spectateurs.
Oui, parce que son cahier des charges est très clair. Pour pouvoir jouer une Coupe d'Europe, un stade doit disposer uniquement, et je cite, de tribunes reposant sur des fondations pouvant supporter un poids important pour une utilisation permanente. Or, trois des quatre tribunes du stade Francis Leblé sont des structures métalliques soutenues par des tubulaires, ce qui est rédhibitoire pour l'UEFA, même si elles sont en place depuis 2010. Seule la tribune principale et ses 5000 places seraient disponibles sans aucune dérogation possible, précise l'UEFA. Le club ne se voit pas jouer l'éventuelle première Coupe d'Europe de son histoire dans ces conditions.
Alors, où pourrait-il jouer ?
Des solutions de repli, il n'y en a pas beaucoup. Dans la région, les seuls stades aux normes sont ceux de Rennes et de Lorient, voire le Roudourou de Guingamp, qui a déjà, lui, vécu une Coupe d'Europe il y a 10 ans. Un peu plus loin, il y aurait la Beaujoire à Nantes, mais pour l'instant, aucune décision n'a été actée. Et si Brest doit déménager pour la Coupe d'Europe, ce ne serait pas une première pour le foot français. Déjà, Lille, par exemple, en 2005, avait joué la Ligue des Champions face notamment à Manchester United au Stade de France, à Saint-Denis, son stadium étant à l'époque trop vétuste.
Merci Jérôme Val. Il reste pour les Brestois à valider définitivement cette place en Coupe d'Europe et ils visiteront le Stade de Rennes. Ce sera peut-être leur stade de l'année prochaine en Coupe d'Europe. Ce sera dimanche pour les Brestois, 17h05 en Ligue 1, 13h26 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. On va reparler des gelées. Puis à 13h30, nous parlons de cette étude de l'INSEE qui nous apprend que 10% des adultes en France ont du mal à comprendre un texte, à écrire, à calculer. Première grande enquête sur le sujet depuis 10 ans. Moins on est allé à l'école, plus on risque d'être concerné. Vous venez témoigner ou poser vos questions 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton, la Seine, se met à l'heure des jeux. On embarque sur les bateaux-mouches dans l'épisode du jour. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Je salue Cyril Petit et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Je salue et j'applaudis Cyril qui a bouclé le marathon de Londres ce week-end. Bravo à vous.
C'est sympa.
Et merci. Vous êtes fringant, tout va bien
Évidemment, bien sûr, tout va bien, mais parce que vous ne me voyez pas marcher.
Vous êtes venu en chaise à porteur,
paraît-il. Je suis venu en camion, Cyril, presque.
Où voilà. Nous emmenez-vous aujourd'hui?
Justement, de Champozou dans l'Orne à Ménois dans le Jura, en passant par Roquelaure dans le Gers. Dans le Gers, on parlera des camions qui redynamisent les campagnes.
Donc ce ne sera pas en courant, ce sera plus simple. Et avec vous, Frédéric, on va reparler de Bourges, oui, dont nous parlions déjà hier, avec une actrice.
Béatrice Dalle, qu'on pourra voir dans deux spectacles au printemps de Bourges cette semaine, notamment un spectacle autour de Kurt Cobain, et c'est la voix de Kurt Cobain qu'elle nous fera écouter.
Merci à toutes et à tous les deux. À tout à l'heure.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
Filmo, la première plateforme de streaming 100% cinéma. Classique, découverte, cinéaste d'aujourd'hui et de demain. Chaque mois, retrouvez des milliers de films des plus grands réalisateurs et réalisatrices. Avec Filmo, accédez au meilleur des cinémas. Des émissions exclusives, des films inédits que vous ne verrez nulle part ailleurs. Osez les classiques, osez les découvertes, osez Filmo. Pour seulement 6,99€ par mois. Et en ce moment, profitez de l'essai offert et sans engagement sur filmotv.fr.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Alors on a parlé tout à l'heure des gelées ce matin dans plusieurs régions et l'ambiance reste bien fraîche.
Oui, des températures qui remonteront en fin de semaine seulement pour rejoindre les moyennes de saison. En attendant, vous l'avez dit, la nuit a été froide avec des gelées moins 5 degrés à Chaumont, moins 3 à Nevers, moins 1 à Nancy, 0 à Orléans. Cet après-midi, comptez souvent 9 à 13 degrés, un petit peu plus près de l'océan et sur le sud-ouest, 13 à 15 et 12 à 17 en Méditerranée. On a un vent de nord qui persiste sur un quart sud-est jusqu'à 60 à 80 km à l'heure. Côté ciel, ça devient partagé cet après-midi entre éclaircies et nuages. Des nuages toujours plus nombreux sur le Jura, à l'est du Rhône et en Corse, avec des averses parfois orageuses sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Près des Pyrénées, un peu de pluie. La neige tombe à assez basse altitude sur tous les massifs, vers 1000 mètres. Et puis de la Bretagne vers la Normandie et le Pas-de-Calais, là on a une dégradation nuageuse qui s'est invitée, qui apporte seulement quelques gouttes, mais des éclaircies vont revenir sur la pointe bretonne.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Ce sont des compétences sans lesquelles il semble bien difficile de vivre au quotidien. Écrire, lire, comprendre un texte simple. Et pourtant, en France, 4 millions de personnes maîtrisent mal une de ces trois compétences. Ça représente une personne sur 10 si l'on considère uniquement les 18-64 ans. Donc c'est beaucoup, mais la situation depuis 10 ans s'est un peu améliorée. C'est le principal enseignement de l'étude que l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études, a publié hier et dont nous avons choisi de parler aujourd'hui avec nos deux invités, avec Vladimir Passeron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du département de l'emploi et des revenus d'activité à l'INSEE, qui a donc rédigé cette étude. Et nous sommes également avec Marie Durubella. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de sociologie à Sciences Po Paris, spécialiste de l'éducation et des inégalités sociales. Vous intervenez en direct de France Bleu Bourgogne. On remercie nos collègues pour la liaison technique depuis Dijon. Et vous nous direz s'il est possible de réduire ces inégalités vis-à-vis de la lecture, de l'écriture et du calcul également. Et puis, je n'oublie pas vos appels. Ils sont déjà nombreux, 01 45 24 7000 ou via l'application France Inter. C'est le numéro qu'a composé Alix. Bonjour Alix.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, peut-être voulez-vous nous livrer un témoignage.
Mon témoignage, oui, je suis une femme de 45 ans, je suis comédienne et en fait j'ai eu la chance de rencontrer une institutrice qui ne m'a pas appris à lire. Mais surtout, j'ai appris à lire à l'époque de la méthode Freinet. Et donc, en plus du sabotage de cette dame, j'ai eu un parcours sans savoir lire ni écrire. C'est-à-dire que jusqu'à 30 ans, j'écrivais phonétiquement et je lisais comme un enfant de CP.
Quel type de difficulté ça vous occasionnait, Alix ?
Alors, c'est obligé toujours de trouver des compensations, des détours pour arriver à faire comme tout le monde, donc travailler 5 fois plus, enfin voilà. Mais j'ai quand même réussi à trouver des raccourcis puisque j'ai fait une école supérieure de théâtre. Je devais apprendre des textes, donc je prenais beaucoup plus de temps. Enfin voilà, après tous les détails, enfin tous les difficultés que peuvent rencontrer les personnes dyslexiques, puisque c'est un trouble de l'apprentissage du coup. Et après, la grande difficulté, ça a été de se dire comment on va transmettre ou pas transmettre ça à un enfant. Et là, en l'occurrence, j'ai un petit garçon qui s'appelle Lucien et qui est en CP. Et ça a été ma grande inquiétude et grâce à son papa, on a réussi à éviter tout ça.
Vous avez eu peur que peut-être il revive les difficultés que vous-même avez vécues à l'école quand vous étiez petite.
Voilà, exactement. Et il se trouve qu'il a eu une super institutrice et dès la grande section, il savait quasiment lire en fait.
Et donc tout se passe bien pour lui.
Voilà.
Bon. Merci.
Et après l'apprentissage à 30 ans, j'ai essayé d'apprendre à 30 ans avec une prof de français, ça ne fonctionnait pas.
Ça doit être très dur d'apprendre à 30 ans.
C'est surtout qu'on a pris des mauvaises habitudes.
Ouais.
Donc j'ai réussi à effacer le disque dur avec une orthophoniste. Et j'ignorais, et ça je trouve que c'est important, parce que quand on est adulte, on ne sait pas qu'on peut avoir accès à une orthophonie, à des séances d'orthophonie, même si c'est très difficile, suivant les régions, de trouver quelqu'un de disponible. Mais en tout cas, c'est accessible. Et moi, ça, je le savais pas. Donc je me suis ruinée en prof de français, ça n'a servi à rien, parce que j'avais pas les bonnes habitudes. Et une orthophoniste a réussi à effacer le disque dur, et à le réimprimer avec ma technique qui me correspondait en fait.
Merci Alix pour ce témoignage, plein d'espoir aussi pour tous ceux qui peuvent souffrir de difficultés pour lire, pour écrire et pour compter. Merci pour ce témoignage que je soumets à Vladimir Passeron. Évidemment, alors Alix n'est plus dans cette situation, mais les gens qui sont dans la situation d'Alix sont nombreux. 4 millions de personnes maîtrisent mal ses compétences. Ce sont des chiffres qui restent stables dans notre pays. Quelle est l'évolution ?
Alors, on mène des enquêtes à peu près tous les 10 ans. Ouais. Hein, la dernière était en 2011. Et effectivement, quand on compare les résultats de cette enquête qu'on a menée en 2022-2023, on observe une amélioration globale. Et c'est une amélioration qui est surtout due au renouvellement des générations. Parce que ce qui est très clair, et c'est ce qu'on voit d'une enquête sur l'autre, c'est que les difficultés à l'écrit sont un effet très lié à l'âge, ou plutôt à la génération. Et les plus jeunes s'en sortent beaucoup mieux que les générations les plus anciennes sur ces difficultés à l'écrit comme en calcul.
Pourquoi les jeunes s'en sortent-ils mieux que les anciennes générations ?
Parce que on a fait des efforts au fil des générations en termes de scolarité. Ils sont beaucoup plus, ils suivent beaucoup plus les scolarités.
Il y a moins d'enfants déscolarisés aujourd'hui.
Moins d'enfants déscolarisés.
50 ans pour le dire vite.
Beaucoup plus, on pousse beaucoup plus les études qu'il y a 30, 40 ou 50 ans.
Un mot justement là-dessus. Vous n'avez pas interrogé les plus de 65 ans dans cette étude. Pour quelle raison ?
Alors on a un tropisme, nous à l'INSEE on a un tropisme, et surtout dans mon département qui s'occupe de l'emploi et des revenus d'activité autour de la population en âge de travailler. Parce que c'est le problème de l'illettrisme ou des difficultés à l'écrit en calcul, ça pose aussi des questions dans la vie quotidienne, mais ça pose des questions également surtout par rapport au travail.
Marie Durubella, on a parlé de l'importance de l'école à l'instant, de jeunes générations qui souffrent moins de ces difficultés que les plus anciennes. Ça veut dire que la situation, fatalement, va aller en s'améliorant dans les prochaines années ?
C'est pas tout à fait certain, parce que on observe toujours dans notre pays un pourcentage qui est de 10% aussi, de jeunes qui vont sortir sans aucun diplôme ou juste le brevet. De même, les jeunes qui passent les journées défense et citoyenneté ont des tests, et on a un noyau dur de 10% de jeunes qui, à cet âge, ont de grandes difficultés. Et ce pourcentage, notamment le pourcentage de sans diplôme, il ne bouge plus pratiquement depuis les années 2000. Il était autour de 12% dans les années 2000, et là, depuis 10 ans, on est scotché à 10%, alors que dans les années 80, on était à 40% de jeunes qui sortaient sans diplôme. Donc il y a eu un gros progrès qu'on voit à travers l'effet génération.
Mais ça ne progresse plus maintenant.
Et bien maintenant, on semble avoir atteint un certain... Il y a un seuil, au-delà duquel il est de plus en plus difficile de progresser.
On sait l'expliquer.
On sait l'expliquer dans tous les domaines. Quand on atteint un but, c'est les derniers mètres. C'est comme au marathon qui sont les plus difficiles. Donc on a ces jeunes en difficulté. On sait, l'enquête de l'INSEE le montre d'ailleurs sur les adultes, ils sont concentrés dans certains établissements qui sont des établissements moins bien dotés, ces établissements des quartiers sensibles par exemple, où il y a des enseignants moins qualifiés, qui tournent, qui sont plus souvent absents. Donc tout ce que leur offre l'école est de moins bonne qualité, et ceci est un frein très important leur progression.
Donc là où l'école est dans le plus mauvais état, si je puis dire, c'est là qu'on trouve sans surprise les gens qui ont le plus de mal ensuite vis-à-vis de la lecture, de l'écriture, etc.
Évidemment, parce qu'on apprend, et là l'enquête le rappelle, on apprend à lire et à compter à l'école, notamment dans les premiers niveaux. Donc ça c'est fondamental. Si l'école n'est pas au rendez-vous, les inégalités vont se cumuler.
Je reste sur les causes avec vous, Vladimir Passeron, et je rebondis sur le témoignage d'Alix qui nous parle de son expérience à l'école. Est-ce qu'on a aujourd'hui encore beaucoup de gens dans cette situation qui vont sortir comme ça de l'école en n'ayant pas les outils ?
Alors, je rejoins ma collègue. Effectivement, même parmi les jeunes, on a des difficultés à l'écrit, des difficultés fortes à l'écrit. On a de l'illettrisme. Et l'illettrisme, la définition, c'est quoi ? C'est les difficultés pour les personnes qui ont été scolarisées en France. Il faut avoir en tête que dans notre chiffre de 10%, il y a à la fois des personnes qui n'ont pas été scolarisées en France, et c'est ces personnes-là qui contribuent pour beaucoup. C'est normal d'avoir des difficultés à l'écrit quand le français, notamment, n'est pas la langue maternelle, qu'on n'a pas été scolarisé. Mais il y a encore des difficultés également pour les sortants, pour ceux qui sont notamment peu ou pas diplômés, qui sortent du système scolaire et qui ont des difficultés à l'écrit comme en calcul.
Une fois qu'on a quitté l'école, et c'était le cas d'Alix, est-ce qu'on peut progresser ou bien est-ce que c'est marginal ? On parle de parcours individuel, de trajectoire comme celle dont on vient d'être témoin à l'instant, mais au fond c'est très peu de personnes.
Alors là, c'est là où notre enquête, on a une comparaison un peu délicate pour une même génération donnée entre les deux enquêtes 2011 et 2022. C'est là où la comparaison est difficile, c'est que on a pour nous, c'est pas significatif. L'amélioration n'est pas forcément significative entre les deux enquêtes à génération donnée. C'est-à-dire que il y a un renouvellement des générations qui contribue à cette amélioration d'ensemble, mais pour une même génération, on ne voit pas de franche amélioration et c'est très compliqué. On voit dans le parcours d'Alix, c'est très compliqué de pouvoir surmonter cette difficulté une fois qu'on est sorti du système scolaire.
Alors, quelles sont les personnes et pour quelles raisons éprouvent-elles des difficultés au-delà des difficultés milieu social ou état de l'école dans lesquelles ils ont pu être scolarisés? Marie Durubella, on a beaucoup de témoignages autour de la dyslexie. Florence, Charente-Maritime, 57 ans, elle nous dit « Je pense être dyslexique, mais je n'ai jamais été diagnostiquée. J'ai de grandes difficultés à m'exprimer à l'écrit. Dans la vie quotidienne, c'est très compliqué. » Et Hervé qui nous dit « J'ai été dyslexique, jeune personne ne le savait. Mon père me réveillait à minuit pour me faire réciter mes leçons, qu'évidemment je ne savais pas apprendre, mais je suis devenu pilote, architecte, photographe. Ma fille est dyslexique elle aussi, et aujourd'hui elle est ingénieure nucléaire. » Donc on peut être dyslexique et faire de longues études. Est-ce que c'est un facteur à prendre en considération, Marie Durubella?
Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de malédiction dans la tête des gens qui ferait qu'ils ne pourraient jamais apprendre. On a tendance dans notre pays, depuis quelques décennies, à psychologiser un peu tous les problèmes en disant il y a des dys, alors les dyscalculiques, les dyscalculiques, etc. En fait, les travaux de recherche montrent que c'est souvent une question de méthode pédagogique et qu'il y a des méthodes pédagogiques qui permettent à tous les enfants d'apprendre à lire. Le rôle de la pédagogie est très important. Alors, dans notre pays, on a un certain mépris pour tout ce qui est pédagogique. On pense que les savoirs des enseignants vont suffire, mais, et ça je l'étudiais d'ailleurs récemment, ça me donne l'occasion d'en parler, dans un livre qui s'appelle « L'intelligence, ça s'apprend », où nous exposons avec mon collègue psychologue, Sébastien Goudot, comment, selon les méthodes, tous les élèves peuvent apprendre. Donc je pense qu'il ne faut pas se sentir avoir hérité d'un malheur comme on a les yeux bleus, eh bien on serait dyslexique. Ce n'est pas vrai, on peut apprendre.
Et qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous pose la question à tous les deux, à Florence qui dit « Je pense être dyslexique, elle a 57 ans, mais je n'ai jamais été diagnostiquée. » Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui, notamment pour améliorer ses difficultés? Elle dit qu'elle a des difficultés à s'exprimer à l'écrit.
Tout ça, ça se travaille. C'est l'écrit, c'est comme pour tout. C'est une question de pratique aussi. Donc, il faut qu'elle puisse trouver un environnement. Alors, ça peut être des clubs de lecture, des clubs d'écriture, mais un environnement où elle va pratiquer sans se sentir handicapée pour la vie par cette faiblesse qu'elle a. Je pense qu'il faut y croire.
Parmi les causes, on a parlé beaucoup de lecture et d'écriture. Sur le calcul, vous constatez aussi dans cette étude, Vladimir Passeron, que les femmes ont plus de difficultés en calcul que les hommes. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors, c'est pas forcément simple à expliquer, parce que ça renvoie quand même pas mal de choses qui se passent dès la scolarisation au plus jeune âge. Mais on avait déjà ce résultat dans la précédente enquête. C'est aussi confirmé dans les différentes enquêtes auprès des collégiens, des lycéens. On a les jeunes filles qui ont des résultats moins bons en calcul que les jeunes hommes, les jeunes garçons. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement durable. Ça renvoie à des études d'ordre sociologique pour comprendre comment ça se s'ancre dans les esprits dès le plus jeune âge.
Alors, il y a une révolution ces dernières années autour de l'écriture. On n'écrit plus forcément avec un stylo, mais avec un ordinateur depuis quelques dizaines d'années et avec un smartphone désormais. Ce qui appelle la question et la remarque de Denise de Castelnaudary qui nous dit « Mon fils a 37 ans. Pendant des années, son illettrisme a gêné beaucoup de gens. Jusqu'au jour, une éducatrice a répondu à mon inquiétude en me disant « Aujourd'hui, grâce au portable, ils n'ont plus besoin de lire et d'écrire. Ça m'a sidéré », nous dit-elle. Marie Durubella, est-ce qu'il faut convaincre aujourd'hui peut-être de plus jeunes générations que la technologie, le portable ne fait pas tout et qu'il faut maîtriser lecture et écriture?
Je pense qu'on peut faire confiance aux enseignants. Dans notre pays, je pense qu'il n'y aurait pas un enseignant qui dirait qu'on peut se dispenser d'apprendre à écrire aux enfants. D'ailleurs, dans les pays qui sont un peu plus avancés que nous sur la diffusion de ces techniques, il y a beaucoup on se rend compte à présent que ça serait vraiment une erreur assez dramatique de ne pas apprendre à écrire de sa main et à lire des textes. Je pense qu'il y a une prise de conscience et qu'il n'y a pas lieu d'être catastrophiste.
Vous avez aussi, et c'est la première fois que vous le faites, Vladimir Passeron, dans cette étude sur les difficultés, lecture, écriture, calcul, mesuré les conséquences sur la pratique de l'informatique. Ce qu'on appelle l'électronisme, c'est un point très important. Il y a un lien entre problème pour écrire et pour consulter Internet, c'est très net.
Alors c'est effectivement, on a voulu axer pour cette enquête ce lien-là sur le handicap que ça peut mener dans les démarches administratives, et c'est très net. On a 17% des personnes qui ne font plus jamais de démarches par Internet, contre 3% en population générale. Donc on est à 6 fois plus de personnes qui évitent les démarches, et or il y en a de plus en plus. Et donc on voit que parmi les différents handicaps, le fait de faire une démarche administrative, il y en a de plus en plus qui sont complètement par Internet. On voit que de plus en plus, et là on est sur la population des 18-64 ans,
c'est... Donc on se dit que les plus de 64 ans aussi, et que vous n'avez pas sondé, sont encore plus concernés par ces difficultés-là.
Très probablement. Et donc là on montre très bien ce lien fort entre ces difficultés à l'écrit, l'illettrisme et l'électronisme.
Et ça, c'est un handicap considérable aujourd'hui. La déclaration de revenus qu'on doit faire tous en ce moment, c'est en ligne.
Complètement.
Merci à tous les deux pour ces témoignages. Merci pour vos questions et vos très nombreux témoignages aujourd'hui autour de ce sujet. Vladimir Passeron, donc, de l'INSEE, qui a rédigé cette étude sur les difficultés des Français écrire, lire, comprendre. Et Marie Duru-Bella, professeure émérite de sociologie à Sciences Po Paris. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie, notre feuilleton le long de la Seine. Cette semaine qui fait sa mue en ce moment pour accueillir la cérémonie d'ouverture des JO dans 94 jours. 94 comme le nombre de bateaux qui transporteront le 26 juillet prochain les athlètes. 94 dont les 10 géants de la compagnie des bateaux-mouches. L'Hirondelle, par exemple, est en travaux en ce moment de la cale au pont supérieur. Et Emma Sarango a pu se rendre au chantier des Hauts-de-Seine dans le sud de Paris avec le directeur général de la compagnie, Taoufik El Amrani.
Aujourd'hui, on est en plein chantier. Là, on voit, il y a des soudeurs, il y a des gens qui sont en train de faire les moteurs en dessous. Nous sommes en train de passer tout le câblage électrique. En fait, ils sont une trentaine ou une quarantaine, parce qu'il y a une bonne partie que vous ne voyez pas. Alors, cette carcasse, c'est de la construction des années 70. De l'acier très très solide et qui traverse les temps. C'est d'une épaisseur très très importante et donc on peut reconstruire dessus ce qu'on veut. Nous avons enlevé tout. Là par exemple, ce que nous avons devant nous, si on s'approche, c'est la salle machine arrière. Et donc là, juste à côté, toute l'installation électrique. C'est le cerveau. Le cerveau du bateau va être là. Ça c'est la salle. Donc là, il faut imaginer qu'il va y avoir des vitrages. Et ici, ce sont des coursives qui vont être équipées de sièges. Et donc, il y aura des passagers sur des sièges sur le pont supérieur et d'autres qui vont être sur les coursives.
Des athlètes ?
Oui, des athlètes. Donc, il y en aura là-haut et ici. Nous sommes en train de nous préparer aux Jeux Olympiques, comme les athlètes d'ailleurs, parce que il faut vraiment qu'on soit au plus haut niveau. Et le jour de la cérémonie, ça va être un événement bien sûr planétaire, hein, tout le monde le sait. Nous allons être regardés par 1,5 milliard de personnes. Et donc nous ne pouvons pas ne pas être à la hauteur. Qui ne rêverait pas d'avoir la délégation française, évidemment. Dans tous les cas, il y a pas mal de délégations prestigieuses qui vont participer à cette cérémonie. Nous avons les bateaux qui ont la surface d'exposition la plus importante. Donc nous supposons, nous partons du principe que avec cette capacité, nous allons certainement capter les délégations les plus importantes. Ce sont des bateaux maintenant moins émetteurs de CO2. Il y a une douzaine de batteries qui vont être couplées avec des groupes électrogènes. Ils vont permettre de faire les trois quarts d'un tour qu'on fait actuellement, qui fait à peu près 1h10. On va le faire sur la batterie. On va diviser nos émissions, enfin on va les réduire de presque 70%. Disons que ces projets-là, on les aurait certainement fait sur peut-être 2 ans ou 3 ans. Là, on fait 2 bateaux en 1 an. Refaire un bateau comme celui-là, actuellement, nous sommes sur un budget d'environ 6,5 millions. Et on pense qu'on va finir à 7 millions.
Pour un bateau ?
Oui, pour un bateau. Plus à peu près 3-4 millions pour mettre les autres bateaux à niveau.
Les Jeux Olympiques, c'est aussi quelques contraintes pour vous, bateliers ?
Beaucoup. Bah, les contraintes de circulation, bien sûr. Mais bon, ça, je pense que ça va être le lot de tout le monde. Hein. Disons qu'il y a autour des Jeux, évidemment, un certain nombre de contraintes qui ne nous plaisent pas.
mais il va falloir qu'on fasse avec. Hein. Évidemment, les jeux ont été décidés pour investir sur l'avenir. Ben, nous essayons d'investir sur l'avenir comme tout le monde, comme tout le pays, et nous espérons que ça ne va pas être que des contraintes, qu'il va y avoir aussi des choses positives qui vont se passer derrière. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet. L'expérience des jeux précédents montre que la fréquentation est beaucoup plus importante les années suivantes. Alors, on veut bien y croire.
Emma Sarango pour ce feuilleton. Stéphane Ronxin à la réalisation. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, 13h49, le mardi. Cyril Petit du journal Ouest France vient nous parler de ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, des histoires de camions qui en disent long sur l'état de nos campagnes.
Oui, on commence, Jérôme, par un camion tout jaune qui, depuis cette semaine, parcourt des petites communes dans l'Orne. La Creuse, la Haute-Marne, le Gers et le Jura, Champozoux, Roquelaure ou Ménois sont quelques-uns des 40 villages où va s'arrêter pendant une demi-journée chaque semaine ce camion de la Poste, car c'est bien de cela qu'il s'agit, comme l'a dévoilé Ouest France. Courrier, colis, téléphonie, banque, ce véhicule de 9 mètres carrés proposera les mêmes services qu'un bureau de poste, à l'exception du retrait d'argent qui ne sera testé que dans la Creuse. On pourra aussi avoir recours aux prestations de France Service comme les impôts ou l'assurance maladie. Alors, expérimentés pendant un an, ces camions veulent rapprocher les services publics de territoires abandonnés. Rappelons que la Poste doit assurer à 90% de la population une présence à moins de 5 km ou 20 minutes en voiture. Alors, au niveau national, l'objectif est largement atteint à 97%, mais avec de fortes disparités, 100% à Paris, 81,9% dans le Gers.
Certains reprocheront quand même, Cyril, à la Poste d'avoir fermé les bureaux de poste ruraux.
En effet, mais la Poste se défend en disant qu'avoir un bureau ou même un facteur guichetier, hein, une personne qui fait les deux activités, dans des villages de quelques dizaines ou centaines d'habitants, ça n'a pas de sens. Il n'y aurait jamais assez de flux, dit Nathalie Collin, la directrice générale de la branche grand public. Alors pour ce test des camions jaunes qui toucheront potentiellement 13 000 personnes, le premier critère de réussite sera d'ailleurs, dit-elle, la perception des citoyens sur la proximité du service public et pas le chiffre d'affaires. L'investissement de 1 million d'euros en lien avec la Banque des Territoires ne générera aucune marge. Ça, c'est déjà acté.
Bon, le concept, en tout cas, n'est pas nouveau.
Mais non, la Poste reprend là son initiative des années 60-70 quand son fourgon Citroën jaune, déjà, allait à la rencontre des Français sur leur lieu de travail ou l'été au camping. Et aujourd'hui, des camions de tout genre, qui n'ont jamais vraiment disparu, reviennent en force pour désenclaver les campagnes.
Et une association s'est même spécialisée sur ce sujet.
Et oui, elle s'appelle Mon Petit Camion. Elle accompagne les projets et facilite les liens entre commerce itinérant, collectivités et habitants. Son objectif, recréer des places de village. Elle répertorie des dizaines de camions, épiceries, boulangeries, boucheries, restauration évidemment, mais aussi des choses plus surprenantes comme des dépôts-ventes, des escape games, des rémouleurs, des cordonniers. Le bien-être ambulant se développe beaucoup, m'a confié Alexandre Vallès, directeur général de Mon Petit Camion. Il cite des salons de coiffure, deux par département en moyenne, des camions de massage ou encore des toiletteurs canins ambulants avec 6 mois à 1 an d'attente parfois. Alors, pour les commerçants, sachez qu'un camion aménagé coûte 2 à 4 fois moins cher qu'un local sédentaire. Pour les citoyens, c'est de la proximité et des kilomètres évités, ce qui compense largement les émissions de carbone de ces camions qui ne sont pas électriques.
Et évidemment, Cyril, ces camions ont leur festival.
Et oui, organisé par Mon Petit Camion, la 7e édition du Festi Truck, en référence au mot anglais qui signifie camion, se tiendra samedi 4 mai à La Martyre. 800 habitants près de Landerneau dans le Finistère, loisirs et services, plus de 20 véhicules seront là. Fun, engagés, pros et locaux, nous promettons, pour prouver que dans les territoires ruraux, les trucks, c'est un bon truc.
Eh ben, oh, très très bon, très très bon. J'allais vous conseiller un camion de massage pour vos jambes un peu dures après ce marathon.
Merci.
Cyril Petit du journal Ouest France, tous les mardis dans ce 13-14. De C'est la France à C'est une chanson. À votre micro, aujourd'hui, Frédéric Pommier, on retrouve la comédienne Béatrice Dalle.
Elle est à l'affiche de 2 spectacles au printemps de Bourges cette semaine. Jeudi, ce sera Trouble, un concert littéraire aux côtés notamment de Virginie Despentes. Et vendredi, ce sera une lecture musicale dans le cadre d'une soirée hommage à Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana. S'est suicidé il y a exactement 30 ans. Béatrice Dalle l'adore et elle l'a découvert en 1991 grâce au réalisateur Jim Jarmusch pendant le tournage de son film Night on Earth. Ceci, elle me l'a raconté dans le café parisien où elle a ses habitudes.
J'habite dans le 18e arrondissement. Et je fais le film Night on Earth avec Jim Jarmusch. Et il est à ma maison et
Il me fait découvrir Nirvana. Et il m'avait ramené le disque. Et il y a le clip aussi qui n'arrête pas de passer à la télé. Smell Like a Teen Spirit. Et je trouve le morceau incroyable. Et après, j'écoute tout le disque. Et après, je tombe amoureuse folle de Kurt Cobain et de Nirvana.
Il se passe quoi la première fois que vous entendez ?
Oh bah, c'est tout ce que j'aime. Moi, tu sais, je déteste les choses qui ne sont là que pour divertir. Tu vois, il y a eu une période qui s'appelait le disco. Moi, je m'en fous, c'est très bien, c'est pas grave, c'est pas faire la guerre non plus que d'écouter ou de faire du disco. Mais moi, les choses qui sont pour le divertissement, ça m'intéresse pas. La peinture, j'ai envie de dire, c'est pas un truc pour faire joli. La peinture, c'est aussi parce que l'âme du peintre fera que ce tableau va être vu de cette manière, quoi.
C'est l'âme de Kurt Cobain qui est venue vous attraper ?
Mais bien sûr. Ces mecs-là deviennent les plus beaux du monde parce qu'ils te charment par leur intellect, leur âme, leur esprit, leur cœur et leur passion, quoi.
Et leurs blessures ?
Et leurs blessures, bien sûr, parce que quand je dis je suis sous le charme de Kurt Cobain, je suis pas en train de rêver de passer une nuit avec lui. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux passer une vie avec un homme comme ça, quoi. My girl, don't lie to me. Tell me when did you sleep last night?
Cette chanson, Frédéric, a pour titre Where Did You Sleep Last Night? C'est un classique de la chanson folk américaine.
Un classique repris par des dizaines d'artistes. Ici, c'est donc la version de Nirvana. Kurt Cobain chante l'inquiétude d'un homme pour la femme qu'il aime. Et comme toujours, il bouleverse Béatrice Dalle.
Alors qu'il fait fantasmer la planète entière quand il dit « T'étais où la nuit dernière ?» Tu vois, il s'inquiète de cette femme qu'il aime. Et bah, ça va tellement bien avec son discours. Quand moi, j'ai vu des interviews, il dit « Moi, je sais pas draguer. » quoi. Et avant qu'il se marie, il disait « Moi, une fille, c'est un peu celle qui voulait de moi parce que je suis si timide. » Alors qu'il faisait ça, il y en avait 2000 qui tombaient. Quoi. Et ça, bah, c'est super touchant, bien sûr.
Cette chanson, ce qu'elle a de singulier, c'est un peu ça... douceur et la douceur du texte.
Mais complètement. Mais il est extrêmement délicat, je trouve. Je dis son côté humble. Là, j'ai un texte dans mon sac où il parle de lui en disant que je suis un espèce de pleutre émasculé, tu vois, qui n'a pas de caractère, qui est trop fragile, trop faible, avec une sensibilité inouïe. Il ne parle presque que de ses défauts et tu sens que c'est pas une posture. C'est vraiment une souffrance infinie. De toute façon, pour en arriver en ayant tellement de succès dans sa musique, auprès des femmes, j'imagine, s'il le souhaitait, et qu'on finit par se suicider, c'est que vraiment on est malheureux, quoi.
Quand quelqu'un en arrive à mettre fin à ses jours, parfois on dit on pouvait sans doute pas le sauver.
Non, je pense pas, effectivement. Parce que moi, mon premier mari qui s'est mis une balle dans la tête, moi j'aurais donné ma vie pour l'homme là, qui partageait la mienne, tu vois. Mais après tout, c'est son choix aussi, quoi. S'il est si malheureux que ça, quand on arrive à dire chaque bouffée d'air que je prends, c'est une torture. Pourquoi, à la limite, on va t'obliger? Il n'a pas demandé à naître non plus, donc il n'a pas l'obligé à vivre s'il n'a pas envie. Hein. My girl, where will you go?
I'm going where the cold wind blows. Cette chanson-là, c'est une chanson que vous écoutez régulièrement?
Alors, j'écoute tous les jours Nirvana. Tous les jours de toute ma vie, depuis que j'ai découvert en 91. Et sur 44 000 photos dans mon iPhone, j'en ai 24 000 de Kurt Cobain. Je te jure que c'est vrai.
Parce que vous savez pourquoi vous avez besoin d'écouter tous les jours?
Parce que j'ai besoin d'avoir des frissons chaque jour. Sinon, t'es pas en vie. Alors, je passe mes journées à écouter de la poésie, à en lire, à en découvrir, à relire des choses. Je lis par exemple le texte du condamné à mort de Genet tous les jours aussi en ce moment. Mais à la fois, je suis seul, tout le temps. Ouais. À la fois, je me dis, tu sais, je vis avec tous mes poètes morts, mes musiciens morts, mes écrivains. Bah, c'est super bien pour l'intellect, mais pour la libido, c'est moins rigolo. Bah ouais. C'est sûr.
Nirvana. Nirvana, Where Did You Sleep Last Night? C'était donc, Frédéric, le choix de Béatrice Dalle.
Béatrice Dalle qui sera donc sur scène au Printemps de Bourges cette semaine, notamment vendredi, pour un hommage à Kurt Cobain.
Merci Frédéric Pommier, on vous retrouve demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme.
De gros morceaux au programme de La Terre au Carré.
Oui, on va un peu refroidir l'atmosphère, mais nous allons parler iceberg.
Merci et à tout de suite.